Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
bonjour, galère, galère, émission du 18 novembre 2020. Avant de parler livre, je vous rappelle que c'est normalement à cette période que se déroule le festival de films de femmes Méditerranée à Marseille pendant une semaine environ. Donc cette année, le festival est annulé, mais étant donné qu'il a été préparé, les films sélectionnés, on peut aller voir les films en libre accès sur le site Univers Ciné. Donc en un seul mot, Univers et Ciné. C'est intéressant parce que l'accès est libre, enfin l'accès est gratuit sur le site Univers Ciné pour voir les films du festival pendant une semaine. Du jour où vous inscrivez, vous avez une semaine pour voir les films du festival autant que vous voulez.
Avec un U majuscule et un C majuscule.
Voilà, on l'écrira sur le petit texte de présentation. Et de toute façon, si vous allez chercher sur Internet Festival des films de femmes Méditerranée 2020, vous retrouverez la mention de ce site Univers Ciné. Donc maintenant, le livre qu'on présente. Ben après le monde des contes d'Alice de la semaine dernière, nous revenons maintenant à la réalité de la société actuelle et en particulier au monde du travail d'aujourd'hui. Nous vous présentons un livre bien réjouissant. Il s'agit de « Sortie d'usine » de Robert Kosman, paru en 2018 aux éditions Sileps, 180 pages, 12 euros. Le sous-titre est « La perruque, un travail détourné ». Et ça vaut vraiment la peine de se procurer le livre lui-même, puisque pour 12 euros, vous avez non seulement le texte, mais des dizaines d'illustrations de ce travail de « La perruque », qui est donc le travail détourné des ouvriers pendant leur temps de travail à l'usine ou pendant leur temps de pause ou pendant les grèves. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Alors, la perruque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on en trouve une définition sur la quatrième de couverture du livre. Et puis, on va en parler, bien sûr, pendant toute cette émission. La perruque, écrit le petit Robert, c'est un travail effectué par un ouvrier ou un technicien ou un employé pendant ses heures de travail et pour son usage personnel ou pour l'usage social avec les matériaux et l'outillage de l'entreprise. Autre définition, c'est un détournement de matériaux ou d'outils appartenant à l'employeur. Dans l'univers de l'usine, du travail à la chaîne, l'histoire de la perruque, c'est donc une histoire souterraine. Entre tolérance et clandestinité, entre vol et dû, entre labeur et loisir, entre habitude et transgression, entre individualité et appartenance au groupe, la perruque, c'est tout cela. L'auteur, Robert Kosman, il a été fraiseur mécanicien et il a interrogé pour écrire son livre des dizaines de perruqueurs sur leur bricolage et leur création. Et donc, c'est toutes ces créations dont on a justement les illustrations dans le livre. Et avant de continuer, je vais vous parler de Robert Kosman un petit peu plus précisément. Il est né en 1948. Il a débuté dans la vie active à 15 ans comme coursier au Crédit Lyonnais. Il a fait beaucoup de petits métiers et il est finalement entré chez Renault en 1973 comme fraiseur et il a adhéré à la CGT. Il a été licencié à la fermeture de l'usine de Saint-Ouen en 1991, où il travaillait. Et après une période de chômage ou de précarité, il s'est inscrit à l'université Paris 8 pour étudier l'histoire du monde ouvrier. Il a ensuite travaillé comme salarié dans l'administration des impôts, où il a été de nouveau syndicaliste avec les Solidaires. Et maintenant retraité, il se consacre à la réalisation d'écrits, en particulier des biographies ouvrières pour le Métron, vous savez, le dictionnaire des biographies du mouvement ouvrier et social. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse au monde ouvrier et qui a trouvé ce biais de la perruque pour nous présenter une autre forme de la vie des ouvriers dans l'usine. En fait, la perruque, c'est une forme méconnue de la contestation du travail en usine. On ne se rend pas compte que même de nos jours, où les ouvriers sont évidemment très surveillés, la perruque existe encore. Avant de demander à Françoise de lire des extraits de l'ouvrage lui-même, je vais vous lire la préface du livre qui a été écrite par Xavier Vignard, un des enseignants d'histoire de Robert Kosman. Un livre, c'est la rencontre, fortuite ou nécessaire, entre un auteur et son sujet. Dans le cas qui nous préoccupe, je veux croire qu'il s'agit d'une rencontre totalement nécessaire. Tant Robert Kosman correspond à son sujet, tant il l'a connu et travaillé, tant ce livre marque un aboutissement. L'auteur se révèle dans le livre. Ouvrier fraiseur à l'usine Renault de Saint-Ouen, militant politique et syndicaliste, Robert Kosman a finalement entrepris des études d'histoire à Paris 8. En même temps qu'il s'intéressait aux ateliers RATP de la rue Championnet, puis aux conventions collectives de la régie Renault pour une maîtrise et un DEA d'histoire, il a beaucoup lu sur les historiens, bien sûr, mais les sciences sociales aussi. Et ensuite, il s'est fait contributeur pour le Métron, donc en écrivant des biographies d'ouvriers. Et ce livre, La perruque, qu'on va lire, est absolument fidèle à son auteur. On y voit une intense curiosité intellectuelle et aussi un travail méthodique, soucieux de déplier un sujet dans son entier et qui est un travail critique sur à la fois les travaux des sociologues et des historiens. On y retrouve en plus, et c'est un plaisir, un goût de la malice et du rire qui correspond bien au sujet. La perruque, en effet, relève de ces thématiques que tout historien des mondes ouvriers a nécessairement rencontrées. Robert Kosman la traque des origines à nos jours, d'un continent à l'autre, en déplie les formes et les usages, car c'est un sujet qu'il explore patiemment depuis fort longtemps, tout en réunissant une collection d'articles de perruques tout à fait remarquables, une collection personnelle exceptionnelle. De fait, parce qu'il fut aussi perruqueur, il connaît le sujet, on peut le dire, sur le bout des doigts. Et je n'utilise pas cette expression pour faire un jeu de mots, mais parce qu'il renvoie au sujet même de l'ouvrage. La perruque, c'est du travail détourné et donc aussi des astuces, un savoir-faire, des mains qui œuvrent et manipulent des outils toujours plus perfectionnés. Il n'est pas si fréquent qu'un praticien se fasse historien et sociologue d'une de ses pratiques. Et le sujet, bien sûr, comme ici, y gagne en épaisseur. Il fallait également la connivence d'un passé ouvrier et militant pour faire parler les autres perruqueurs, pour voir toutes les dimensions de cette activité. Robert Kosman ne cherche pas à réduire son sujet. Au contraire, il montre les multiples pôles autour desquels la perruque s'est ordonnée et s'ordonne encore. Aspect budgétaire, aspect plaisir, pendant le temps de travail, pendant les luttes, travail de réparation, exercice de virtuosité, moment d'initiation, occasion de saluer un départ en retraite, réseau de solidarité, la perruque est tout cela à la fois. Et le livre étonne et surprend tant les pratiques varient, tant les objets produits charment, mais parfois stupéfient. Et l'on rit, bien sûr, on lit des astuces, des savoir-faire, de la malice de ceux qui perruquent sans se faire prendre. J'y lis en creux, par conséquent, une revendication de respectabilité, où l'ouvrier peut se faire artisan, voire compagnon, en train de réaliser son chef-d'œuvre. Et pourtant, parce que la perruque s'opère le plus souvent dans le dos des patrons et des contremaîtres, parce qu'elle suppose des formes de solidarité et de connivence au cœur des ateliers, elle relève en même temps de cet art de coopérer, tout à fait caractéristique des cultures ouvrières et populaires. Contre la mutilation et la parcellisation que l'ordre usinier impose, les perruqueurs truquent et inventent, mais revendiquent aussi une capacité au bel ouvrage qui, précisément et contrairement à l'économie capitaliste, n'a pas de prix. La perruque s'inscrit dans un circuit de dons, de contre-dons, d'ententes qui tissent par conséquent un collectif de travail. C'est pourquoi l'auteur est si attaché à rechercher ses formes les plus contemporaines, et y compris dans le tertiaire. Surtout, il défend avec beaucoup de conviction, mais de nuance aussi, la thèse que la perruque relève des multiples formes de résistance à l'ordre usinier. Et dans cette thèse que je crois juste et à laquelle je souscris entièrement, l'historien retrouve l'ancien perruqueur et rejoint le militant. Laissons maintenant la parole à Robert Kosman. C'est quoi la perruque ?
Pour tout un chacun, une perruque consiste en des cheveux postiches que l'on porte sur la tête. C'est le point de vue des coiffeurs. Mais le terme est polysémique. Pour les pêcheurs, c'est une ligne emmêlée. Pour le bijoutier, c'est l'ensemble des fils de fer qu'il doit souder. Pour le plombier, c'est le tas de filasse qu'il utilise autour des filetages. Dans les métiers du cinéma, c'est l'enchevêtrement d'une pellicule qui a été débobinée. Il sera ici question de la perruque au travail, et plus particulièrement à l'usine ou à l'atelier. On peut la définir ainsi, l'utilisation de matériaux et d'outils par un travailleur sur le lieu de l'entreprise pendant le temps de travail, dans le but de fabriquer ou transformer un objet en dehors de la production réglementaire de l'entreprise. Une partie importante de la perruque industrielle consiste à réparer sur le lieu de travail des pièces, des objets domestiques endommagés ou dont il manque un élément. Dans les entreprises, elle est plus ou moins tolérée, mais sa réalité est peu connue. Ni la hiérarchie ni les ouvriers n'aiment trop qu'on en parle. Dans les dictionnaires, la perruque est probablement aussi ancienne que le salariat. Le dictionnaire historique des argots français de Gaston Hainaut, 1965, dont l'auteur considère la perruque comme un abus de confiance, fait remonter son sens à 1807. Être le perruquier dans l'affaire, qui voulait dire être celui qui se fait duper, celui qui se fait rouler. En 1833, toujours selon Gaston Hainaut, le sens de tromperie est conservé. Être le perruquier, c'est se faire gruger. En 1856, son sens est plus précis et s'applique selon le même auteur aux ouvriers des arsenaux, du bâtiment et art. Travail qu'un ouvrier exécute pour soi pendant son temps de présence à l'atelier, souvent même dans des matériaux détournés. Hainaut, 1965. La perruque de travail provient de l'analogie avec la perruque de cheveux. Pendant longtemps, les perruques ont été faites avec des cheveux naturels. Les ouvriers coiffeurs récupéraient les cheveux tombés et les revendaient aux fabricants de perruques. C'est l'origine et le sens le plus commun de trompe-l'œil, une tromperie sur la chevelure comme l'est, pour l'employeur, la perruque industrielle. Des variantes locales du terme existent. Pinaille à Belfort et à Sochaux, bousille chez les verriers du Nord, bricole au Creusot et à Nantes, bricole également à l'arsenal de Brest, casquette à Tulle. Tous ces termes recouvrent la même réalité, en même temps qu'ils insistent sur son caractère modeste, mais le plus usité qu'on retrouve dans la plupart des régions est celui de perruque. L'apparentement de la bricole au bricolage, qu'a étudié Claude Lévi-Strauss, a pu être présenté lors d'un colloque à Villeurbanne, à l'initiative de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon. L'écrivain hongrois Miklós Arasztyi, relatant son expérience de fraiseur à l'usine de fabrication de tracteurs Étoile Rouge, affirme que lorsqu'un ouvrier se renseigne auprès de ceux d'autres entreprises, le fait de savoir si on peut perruquer est parfois aussi important que d'autres critères déterminants, tels le salaire.
Eh oui. Donc, la perruque est maintenant un petit aspect historique, la perruque dans l'histoire. Le détournement du travail existait chez les pharaons ou chez les romains, bien sûr, comme dans Astérix. Mais soyons un peu sérieux et revenons au grand siècle.
La première source officielle, royale, concernant l'interdiction de la perruque remonte au XVIIe siècle. Sous le règne de Louis XIV en 1674, alors que Colbert était secrétaire d'État de la marine, puis en 1689, deux ordonnances précisent les conditions de fouille à la sortie de l'arsenal. Article 15. Les ouvriers travaillant tant sur les vaisseaux que dans les ateliers de l'arsenal ne pourront après le travail sortir par eau, mais seront obligés de passer par les portes ordinaires gardées par les Suisses. Article 16. Un écu d'amende à ceux qui feront des ordures hors des lieux destinés à cet effet. Article 17. Même peine à ceux qui sortiraient des morceaux de bois et coupeaux. Ceux qui seront saisis de clous ou autre chose appartenant à Sa Majesté seront en plus punis corporellement. Article 18. Défense d'acheter à des matelots, soldats, gardiens et autres journaliers des cordages, ferrailles, bois et autres ustensiles des vaisseaux. Colbert était bien renseigné sur les pratiques de l'arsenal à une époque où il avait lancé la construction de bateaux pour la traite atlantique. L'administration savait que l'abondance de bois entraînait des pratiques transgressives permettant la perruque mobilière pour un certain nombre de charpentiers, de marine et de personnel de l'arsenal. L'article 36 précise « Faire défense à tous officiers de prendre aucune marchandise ni autre chose que dans les magasins et arsenaux pour leurs services particuliers et à tous ouvriers entretenus dans les arsenaux de leur faire aucun meuble ou autre ouvrage. » L'administration royale s'aperçut également que le nombre d'embarcations, dont une bonne partie servait avant tout à la pêche et à la promenade, s'accroissait anormalement aux frais de la marine. Les articles 21 et 22 sont explicites en ce sens. Il ne sera entretenu dans le port que le nombre de chaloupes et canottes ordonnées par Sa Majesté et les gardiens de ces chaloupes envoyés aux ouvrages de l'arsenal lorsqu'ils ne seront pas de service. Cette pratique de détournement par des ouvriers qui en ont la possibilité, attestée dès le XVIIe siècle, est probablement aussi ancienne que le salariat. Les relations sur la perruque sont plus nombreuses au XIXe siècle, tout d'abord de la part des compagnons, des ouvriers. Les mémoires de compagnons du Tour de France font état de l'outillage fabriqué sur le temps de travail et avec les matériaux empruntés à l'employeur. Agricole Perdiguier, menuisier et compagnon du devoir de liberté, raconte comment, employé pour fabriquer un meuble et des fenêtres, il arrive à détourner une partie du bois, de la matière première, pour constituer son propre outillage, non sans conflit avec le patron, qui menace de confisquer l'ensemble de la boîte à outils au départ du chantier du compagnon. L'ambiguïté de la perruque est déjà présente, puisqu'un autre compagnon, Abel Boyer, compagnon maréchal ferrant du devoir puis forgeron, se félicite de la tolérance de son patron, qui en son absence laisse le compagnon bricoler à sa guise. On serait bien chez ce patron, atelier bien outillé. Le patron ne veut pas mettre la main à l'ouvrage, cela fait bien mon affaire. Il exige le travail bien fait. Je m'applique et je m'aperçois que j'acquiers quelques tours de main indispensables. Il me laisse bricoler. Au Creusot, une exposition consacrée à la perruque eut lieu en 1995, présentant 200 objets prêtés par d'anciens perruqueurs. La plus belle pièce, en tout cas la plus poétique et la plus élégante de toutes les perruques que j'ai pu voir, est à mon avis un couple de cocottes en tôle, type cocotte en papier, pliées au marteau pilon, à la fin du XIXe siècle. Chez les verriers, il n'y avait pas de compagnonnage, mais entre 1890 et 1900, notamment à l'usine de Baccarat, les premières pratiques de bousillage sont attestées. Le travail de la verrerie pour les ouvriers qualifiés est soumis à la division du travail. Par exemple, un ouvrier ne réalise pas un verre à pied en entier. Un premier réalise le pied, un autre la tige, puis un troisième le haut du verre. Un spécialiste fera la gravure. Chez Baccarat, pour réaliser une seule pièce, il faut 9 ouvriers. Cette parcellisation extrême du travail crée des insatisfactions chez les verriers. Nous aussi, on voudrait bien faire de la création pour nous-mêmes. Je veux dire, avoir une idée puis la concrétiser. On bricole comme ça pendant le casse-croûte. Pour compenser cette division du travail et répondre aux demandes, les maîtres verriers laissent ouverts les fours en fin de travail pour que les verriers puissent réaliser leur bousiller. Au-delà de la tolérance de fin de travail, les verriers en équipe de nuit, où les chefs sont moins nombreux et à d'autres moments où la surveillance est moindre, peuvent réaliser des vases, des lampes à pétrole, des glettes pour jouer au palais, des presse-papiers en verre de tous ordres. Le musée de Sars-Poterie différencie les objets manufacturés pour l'entreprise et ceux réalisés par bousillage. Environ la moitié des nombreux objets exposés est le fait du bousillage. Le règlement de police intérieure du 30 juin 1820 des manufactures Peugeot Frères et Compagnie à Montbéliard indique en plus des obligations de ponctualité, discipline, respect de la hiérarchie, responsabilité de l'outillage, celle de lutte contre le détournement de matière et de rebut de toutes espèces, travail en sous-main, la perruque, et dresse la liste des sanctions encourues pour manquement ou faute, de l'amende à la débauche.
Puis, au XXe siècle encore, on le sait moins, la perruque est fréquente.
La production perruquière de la période de pénurie pendant l'occupation nazie est quant à elle différente. Elle a un caractère utilitaire marqué. On fabrique surtout des gamelles, des batteries de casseroles, comme au Creusot ou à Saint-Étienne. C'est à cette époque qu'à Renault, à Billancourt, un ouvrier entre le matin à vélo et reçoit le soir avec le même vélo auquel il a attelé une remorque fabriquée à l'usine. À l'atelier de réparation des bus à Paris, rue Championnier, on fabrique des valises, en bois pour les menuisiers, en aluminium pour les chaudronniers. Les valises transportent le matin le casse-croûte prévu pour la pose et repartent le soir pleines de bois, utilisé comme bois de chauffage, coupé à la dimension exacte de la valise. La conscience du détournement est alors évacuée au regard de la situation politique. Un témoignage précise ainsi que là, c'était normal car on volait les Allemands. Pendant la guerre de 39-45, au Creusot, la pénurie a suscité la fabrication d'objets spécifiques. Rouées, grilloirs à orge, machines à couper le tabac. Tous ces objets fabriqués à l'usine permettaient aussi d'obtenir les produits alimentaires qui faisaient défaut aux citadins. Les agriculteurs échangeaient les pommes de terre et le lard contre des couteaux à couper le jambon ou des serpettes. À cette époque, en province, la perruque constitue une véritable monnaie d'échange avec les agriculteurs. Dans l'après-guerre, la perruque représente aussi un apport matériel au domicile. Beaucoup la considèrent comme un complément de salaire. On sait que dans une période plus récente, la pratique de la perruque est très répandue. Michel Antebi cite ainsi l'enquête de l'INSEE de 1987 sur la fréquence de la perruque. 28% des ouvriers affirmaient fabriquer, fréquemment ou occasionnellement, quelque chose ou réaliser un travail qui n'est pas destiné à l'entreprise. Dans les années 1970, avec l'élévation du niveau de vie, la perruque est plus éloignée de la nécessité immédiate. La valeur travail est critiquée et remise en cause après mai 68 par une partie de la jeunesse ouvrière. La perruque devient plus souvent une réaction à l'uniformité des productions mises sur le marché. C'est avant tout le plaisir de le faire soi-même et bien fait plutôt que de l'acheter. Les ouvriers fabriquent autour des outils personnels, bien spécifiques qu'on ne trouve pas dans les magasins d'usine ni dans le commerce. Certains outils n'étaient pas disponibles ou bien les ouvriers en inventaient d'autres qui leur facilitaient la tâche, leur permettant d'effectuer un travail plus vite ou d'accéder à des endroits difficiles. Pour les mécaniciens, par exemple, il pouvait s'agir de tiges de laiton avec le bout pané et poli pour ne pas abîmer les joints, de bouts d'acier recourbés et pointus pour enlever les goupilles dans les endroits difficiles. Il fabriquait aussi un tas de bidules divers, de petites boîtes à cigares ou de cirages, ou à cirage rempli de petits outils, des bricolos. En 1978, Robert Linhart publiait un témoignage sur son établissement chez Citroën où il présentait l'établi bricolé, perruqué par un taulier, retoucheur, deux portières, pour faciliter son travail. Marcel Durand, ouvrier révolté aux usines Peugeot à Sochaux, verse un témoignage drôle sur les pratiques de résistance et de perruque dans cette grande usine. Dans la fabrique de hautbois Marigot à Paris, les ouvriers très qualifiés, autant musiciens qu'ouvriers d'art, qui faisaient la mise au point des instruments, ne rechignaient pas sur la perruque, créant leurs propres outils, des tournevis souvent en ébène, le bois traditionnel des hautbois, et des porte-crayons qu'ils fabriquaient en transformant les embouchures des instruments et en ajoutant un pied. Avec les touches en métal de hautbois, ils réalisaient des boucles d'oreilles et des colliers pour leurs compagnes ou de petites machines à distribuer des gouttes d'huile pour graisser leurs instruments. Un avion, c'est pour l'instant la perruque la plus imposante que nous ayons rencontrée. Ce petit avion a été réalisé avec ténacité et patience pendant 10 ans, à partir de 1990, aux ateliers d'entretien du matériel d'Air France. L'avion, conception originale, fabriqué en partie en perruque dans l'entreprise et au dehors, est immatriculé sans ambiguïté, F. Pruc. Il a pris son vol dans l'année 2000 et depuis son concepteur s'attaque désormais à un autre avion.
Mais à nouveau, revenons au quotidien. Après cet exceptionnel, l'avion, revenons à la norme.
Eh oui, après l'exceptionnalité, revenons à la norme. C'est la réparation d'objets qui est la pratique la plus fréquente chez les perruqueurs. Les ateliers d'entretien reçoivent la visite d'une grande partie des véhicules appartenant aux ouvriers. Les vidanges, retouches de peinture et de tôlerie carrosserie n'ont aucune raison de passer par les garages commerciaux. De même pour la mécanique. À l'atelier, pour toute réparation, on trouve facilement des spécialistes et des machines qui règlent toute difficulté. Ainsi, l'alésage de culasse pour gagner de la vitesse sur les deux roues motorisées ou le rectifiage des blocs moteurs sont les classiques de la réparation perruquière. Plus simplement, l'exposition du creusot montrait des casseroles modifiées auxquelles on avait remis un manche, par exemple, des pics à feu détordus, tout un petit appareillage facile à réparer soi-même. Au-delà des objets exposés, la littérature prolétarienne évoque elle aussi la perruque dans le cadre de la réparation. André Philippe, ouvrier métallurgiste, forgeron forgeur sur machine à Saint-Ouen, devenu écrivain, décrit dans son roman « L'acier » la perruque d'un ouvrier soudeur. Il aimait le métal, il aimait façonner lui-même ses outils, étau ou enclumette, poinçon, bêche plate ou triandine, et jusqu'au pied forgé servant à ressemeler les souliers de travail. Il lui arrivait souvent aussi de bricoler pour les voisins. Une queue de casserole arrivait, une soudure à faire. Les services ne se comptaient plus, et s'il ne demandait aucun salaire pour ses menus travaux, il récoltait par contre beaucoup de sympathie. Les perrugueurs se subdivisent en deux groupes principaux. Un premier groupe tient à réaliser entièrement l'objet, lui-même, et le plus souvent à la main. Il le construit parfois démontable pour le sortir plus facilement au nez des gardiens. Un second groupe envisage la perruque comme une collaboration, sous-traitant aux divers métiers de l'atelier, débit, soudage, fraisage, tour, etc., ce qui relève de la spécialité de chacun. C'est une forme plus collective qui implique des réciprocités et des complicités pour dégager le matériel fini. Des camionneurs pour la sortie des pièces de fort volume. Les rapports avec la maîtrise sont ambigus. Le plus souvent, la hiérarchie tolère la perruque, estimant d'une part qu'elle exerce l'esprit d'initiative et d'autre part qu'elle fait entrer le perruquier dans un système contractuel implicite qui, en contrepartie du laxisme de l'agent de maîtrise, impose au compagnon d'effectuer le plus correctement son travail. La maîtrise elle-même sous-traite sa propre perruque à un certain nombre d'ouvriers. Elle ne délèguera pas forcément sa propre perruque aux spécialistes, mais plutôt aux ouvriers plus proches d'elle, en qui elle a toute confiance. Le double langage n'est pas absent. L'exemple qui suit est éclairant. Avant sa destruction, un préfabriqué, le pavillon de l'île Seguin, représentant l'histoire de Renault, avait pu être installé pendant le temps du réaménagement de l'île Seguin à Boulogne-Billancourt, avant qu'elle ne devienne le lieu culturel branché du département des Hauts-de-Seine, en lieu et place d'une usine qui avait vu passer 1 million d'ouvriers en 1 siècle. Avec notre association des travailleurs Renault de l'île Seguin, ATRIS, nous avions obtenu la tenue d'une vitrine et de panneaux consacrés à la perruque, où l'on pouvait voir quelques objets fabriqués à Boulogne. Jeux d'échecs, outils, piste de 421, y compris un buste de Lénine en résine. La fermeture du pavillon est prévue à la fin de l'année 2018.
Cette vitrine d'objets de perruques fabriqués chez Renault et exposée ensuite au grand public, on en voit des photos dans le livre. Il y a des objets en métal, en bois, en résine, en cuir, qui montrent bien les compétences et la créativité des ouvriers. Mais ces objets de perruques, admis comme tels, montrent aussi l'ambiguïté de la perruque dans le processus industriel.
Le caractère ambigu de la perruque ressort clairement de ce qui précède. Interdite, sanctionnée et à la fois souvent tolérée. Nous pouvons emprunter ici le concept de Daniel Linhart de consentement paradoxal et, sous forme de bricolage conceptuel, renverser le concept appliqué par la sociologue Linhart. Celle-ci s'appliquait aux ouvriers qui, dans le cadre des cercles de qualité, groupes d'innovation et autres groupes de progrès, acceptaient de jouer le jeu patronal, d'améliorer la qualité et la productivité en livrant leurs combines de travail, leur inventivité, leur savoir-faire, jusque-là cachés soigneusement à la maîtrise. En même temps, paradoxalement, par le dévoilement même de leurs pratiques clandestines, ils remettaient en cause la légitimité de ceux qui sont au poste de commande et des règles hiérarchiques du pouvoir de l'entreprise. Ce consentement paradoxal, ouvrier, peut être renversé et appliqué dans le cas de la perruque, cette fois à la maîtrise d'atelier. Cette dernière consent, parfois tolère, le travail souvent visible des perruqueurs, d'une part parce qu'elle ne peut l'empêcher totalement, d'autre part parce qu'elle accepte un contrat implicite avec ceux-ci, qui sont souvent des ouvriers consciencieux. Mais elle le fait de manière paradoxale, car elle a du mal à tolérer un travail illégal qui, à tout moment, selon les règles de l'entreprise, pouvait et devait être sanctionné. La perruque constitue une forme de résistance culturelle face au patronat. Les perruqueurs impénitents, s'ils doivent composer avec l'encadrement, sont tout de même le plus souvent dans un rapport de révolte avec la production ordinaire qu'exige l'atelier. Le détournement et la récupération d'une partie du surtravail non payé sont au cœur de la perruque. La maîtrise tolère la perruque des compagnons pour les raisons expliquées précédemment, mais surtout parce qu'elle est incapable de l'empêcher. Dans une journée de travail, des interstices se glissent toujours en dehors de la production prescrite. Blagues, café, parfois chahut. La perruque fait partie de ces moments. Une autre raison est la nécessité du vivre ensemble pendant des heures entre maîtrise et ouvrier. Des relations se créent et il n'est pas possible qu'elles soient conflictuelles en permanence. Pour les perruqueurs, le besoin de lutter contre la déqualification continue et d'effectuer un travail désaliéné est trop puissant dans une classe ouvrière qui possède les connaissances et les moyens de réaliser ce travail. L'existence de la perruque repose sur un ensemble de compromis et de non-dits. Quand ce n'est pas le cas, le perruqueur se cache et prend le risque de sanctions.
Donc, à partir d'ici, Robert Kosman nous donne quelques exemples de perruques quasi institutionnelles dans les grandes entreprises, y compris par exemple la SNCF, la RATP, etc. À la SNCF, en fait, les perruqueurs fabriquent dans leurs ateliers des coupes et des trophées pour les championnats ou les compétitions intra-entreprises. C'est vraiment de la collaboration de classe bien comprise.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche, au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui affardent, qui tout le temps se font des cheveux, et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Collaboration de classe ou lutte des classes? Front populaire, comme on vient de le voir dans la musique du film de René Clair, ou alliance des classes? Des chapitres du livre collectent différents récits, toujours passionnants, de perruques réalisées pendant les conflits, pendant les grèves, mais aussi tolérées, comme l'étaient les perruques de conduite, héritage de traditions compagnoniques qui, traditionnellement, permettaient aux ouvriers d'avoir un objet souvenir pour leur départ en retraite.
Les amis et compagnons de la même société compagnonique faisaient une conduite à l'ouvrier lorsqu'il quittait une ville lors de son tour de France, en chantant et en le félicitant. En retour, ce dernier devait plusieurs litres de vin à ceux qui l'accompagnaient. Cette cérémonie était solennisée par le défilé avec costume, redingote, chapeau haut de forme, auxquels étaient attachés les rubans de l'ordre compagnonique, sans oublier les cannes que portaient les compagnons. Le terme s'est maintenu pour signifier le départ non plus pour une autre ville, mais le départ de l'entreprise. La terminologie s'est prolongée en gardant le sens du départ pour les ouvriers qui partent en retraite. Les perruques de conduite sont extrêmement nombreuses dans les ateliers. Elles consistent dans la réalisation d'un objet souvent offert à un compagnon à l'occasion de son départ à la retraite. C'est parfois la reproduction en modèle réduit de sa machine, fraiseuse, tour mécanique, comme pour Michel Hilibert, parti du département 59 de Billancourt en 1989. Un objet plus symbolique, la quille de départ, est la perruque la plus répandue. L'ethnologue Noël Jérôme a connu un tour à commande numérique chez Renault à Billancourt, qui possédait un programme spécifique pour fabriquer les quilles. Dans une période de réduction d'effectifs, de licenciement pour motifs économiques, Charles Dunacio, métallo à l'usine de chaudière Saunier-Duval de Nantes, décrit de manière précise la cérémonie de fabrication des quilles fabriquées par les apprentis sous la commande de la direction. Lors d'un FNE, Fonds National de l'Emploi, c'est-à-dire le départ de compagnons à 56 ans et 2 mois, pris en charge par le FNE, le patronat organise des départs en retraite. Chez Saunier Duval, c'est la coutume, on reçoit une quille. De dimension volumineuse, 70 cm, elle est constituée par une masse de laiton surmontée d'un abat-jour en peau de cochon. En 1987, il y eut quelque 140 départs en FNE à l'usine de Nantes, ce qui occasionna une production accrue de quilles. Il y avait baisse de la production dans les chaudières et les chauffe-eau et gonflement de la demande en quilles de laiton. Un témoignage étonnant est celui produit par le comité d'entreprise de la SNECMA Évril Corbeil en 1998, qui a publié un livret intitulé « Les ouvriers de l'imaginaire » qui présente les cadeaux de départ d'une centaine d'ouvriers auxquels on a offert une perruque de conduite. Sur la centaine exposée dans l'ouvrage, 21 sont représentées par des quilles, affichées seules ou, le plus souvent, accompagnées d'un pignon, d'une ailette de moteur, d'aile d'aviation, de roulement à billes, bref, d'un bric-à-brac élaboré collectivement pour honorer le départ du compagnon. L'une de ces quilles, confiées par Paul Maillet lors de son départ de la SNECMA Corbeil en 77, porte l'inscription 17 196 jours, ras-le-bol, je pars. Chez Renault, où la symbolique communiste imprégnait l'idéologie d'une partie des militants ouvriers, les perruques de conduite reproduisant le sigle de la CGT, deux mains qui se serrent, ou des variantes nombreuses de faucilles et marteaux, sont des cadeaux de départ fréquents pour les militants qui partaient. La perruque peut même alimenter les débats politiques. Ce fut le cas pour Alain Chaplin, ouvrier cédétiste combatif, mais non adhérent à un parti. Pour son départ en retraite en 1990, Marc et Philippe, deux militants d'extrême gauche, réalisèrent ce symbole. Sur une idée de Marc et Philippe, on a fait réaliser le socle en cuivre par les forgerons du 50-50 méthode forge, puis le perçage du socle et des manches en bois du marteau et de la faucille par Marc. Faucille et marteau par Jeannot, et c'est Philippe qui s'est occupé de la rectif. Quand ce symbole a été offert à Alain Chaplin pour son départ en retraite, un jeune militant du PCF, coin, se retourne vers nous et nous apostrophe. « Pourquoi vous lui offrez un marteau et une faucille? Il n'a jamais été au parti. » Philippe lui répond. La question est, pourquoi un ouvrier, conscient et combatif anticapitaliste, n'a jamais été au PCF? Des situations différentes sont observables d'une usine à l'autre, voire dans la même entreprise. Lise Le Riche-Chomme, dans son étude de la perruque, donne la parole à Marie-Noël, ouvrière chez Bata, qui explique qu'il n'était pas question d'y perruquer. On était bridés, on n'osait pas vraiment bouger. De toute façon, la cadence était dure sur les machines et en temps normal, on n'aurait pas eu le temps de grappiller quelques secondes pour faire quoi que ce soit en plus. Pour finir, les ordres de fouille étaient quotidiens et très stricts, sans parler de la surveillance omniprésente qui achevait de dissuader quiconque aurait voulu travailler pour soi. Après l'annonce de la fermeture, les Batamen, à l'arrêt depuis le début du mois de juin 2001, ont alors commencé à combattre l'angoisse de l'incertitude par la fabrication de petits riens pour eux.
Pour eux, ben oui, pour eux. En fait, c'est ça, c'est le passage du travail très surveillé à un travail qui devient plus libre parce que l'entreprise va fermer. Et que très souvent, la menace de la fermeture, évidemment, produit un conflit, une grève, un moment où, très brièvement, les ouvriers deviennent les responsables de leur atelier. Donc ici, Robert Kaufmann nous donne des exemples dans lesquels les perruques sont en fait des produits du conflit du travail, c'est-à-dire que les ouvriers, soudainement, sont moins surveillés, soudainement sont responsables d'eux dans leurs ateliers, et en fait, ils vont commencer à en profiter pour faire des perruques. Alors, c'est petit rien pour eux.
Peu à peu, certaines emportaient des chutes de cuir, puis des demi-pots qui comportaient des défauts et n'auraient pas été utilisables pour la production. Si au début, les chefs râlaient et menaçaient, au fur et à mesure de l'été, on se cachait de moins en moins pour fabriquer de petits articles de maroquinerie en tissu ou en cuir. Fait inédit à Bata, on circulait d'un atelier à l'autre pour rencontrer les autres ouvriers, demander aux coupeurs d'adapter des gabarits conçus le long de lentes journées de l'atelier. Puis, ce fut l'atelier des piqueuses qui fut le plus sollicité. On venait les voir, elles, pour finaliser d'ambitieux projets de trousse, sac à main ou besace. On échangeait des idées, on copiait, on améliorait, on ajustait les projets au goût des uns et des autres. On est ici à une frontière entre perruques traditionnelles et perruques collectives, dans une usine qui n'est pas en grève, mais dont la direction a annoncé la fermeture. En conséquence, les ouvrières se sont dégagées du travail prescrit, ont bravé les interdictions pour pouvoir exprimer leur savoir-faire en maroquinerie. Nombre de perruques de grève sont le fait d'ouvrières dans le domaine de la couture. Comme chez Bata, il est impossible chez Nina Ricci de perruquer à son compte. Il faut attendre que les ateliers soient occupés en 1999 pour que les premières et secondes mains qualifiées créent le modèle de haute couture de robe du soir Stromboli, qui sera porté par un mannequin comme emblème des grévistes devant le carrousel du Louvre au défilé officiel des collections de haute couture le 20 janvier 1999.
Eh oui! Un modèle de haute couture qui défile au carrousel du Louvre, alors que c'est un modèle réalisé par les grévistes. Ça, je ne sais pas si on l'a dit pendant le défilé.
À Roanne, au milieu des années 80, les travailleurs inventent un nouveau procédé de tissu Novacor. Le brevet sera vendu au Japon, entraînant la colère des syndicats. C'est à ce moment que les couturières créent trois costumes en Novacor, dont deux sont offerts à Jean Auroux, le maire de la ville, et un troisième à Henri Krasuki, le secrétaire général de la CGT. Dans la même situation, les ouvrières de la vie en pull, toujours à Roanne dans les années 1990, créent un fuseau, un polo et une écharpe. À l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, elles créent des t-shirts avec divers slogans. Un premier représentant Marianne sur fond de Bastille usine, même combat, avec le slogan « Vivre et travailler autrement », puis un second avec trois colombes et la vie en pull. Un autre modèle était vendu, Saint-Just, le bonheur est toujours une idée neuve. En mai 1980, à la fermeture de l'usine de prêt-à-porter Brill dans le Loiret, les 318 ouvrières créent une poupée libre, anagramme de Brill. Pour soutenir leur action, et fonde une coopérative ouvrière. L'année suivante, la société Bella de Perpignan, qui fabriquait des poupées, subissait un règlement judiciaire qui faisait passer le personnel de 860 personnes à 315. Les ouvrières restantes créent symboliquement une poupée de Lutte Bella qui apparaît sur un autocollant aux couleurs de la Catalogne. Dans la chaussure, c'est Myris à Limoux. Lors d'une grève, 5 salariés sont inculpés d'infractions et d'empêchement de circuler librement. Les ouvrières qui, en 1999, occupent l'usine, fabriquent des souliers de la lutte pour les vendre dans les manifestations de soutien. Le pied gauche porte surpiqué en blanc l'inscription « Les 5 ». Dans son livre, Fanny Gallo rapporte que les ouvrières de l'usine de lingerie Le Jabi, à Issingo, fabrique un soutien-gorge tricolore qu'elle porte en manifestation en 1994. De la même manière, les salariés de Moulinex à Alençon fabriquent en 2001 un fer à repasser géant qui est promené dans les manifestations.
Voilà, donc de nombreuses perruques qui sont des perruques collectives ou des perruques individuelles mises à la disposition du collectif lors des luttes ou pour soutenir les luttes. Très simplement, pour le patronat, la perruque, c'est du vol. Les vigiles d'usine fouillent les ouvriers à la sortie des ateliers et les patrons tentent d'empêcher les expositions d'objets de perruque. Par exemple, à Firminy en 1996 ou à Montreuil en 2003 pour l'exposition « Et voilà le travail ». « Et voilà le travail », c'était une superbe exposition d'objets fabriqués par des ouvriers. Et deux fois, les patrons ont essayé de s'opposer à l'ouverture de ces expositions, tellement la création ouvrière les gênait. Mais la perruque garde toute sa place. Elle garde toute sa place dans la lutte des classes, dans les grèves. Et on va retrouver un certain nombre de points de vue syndicats ou syndicaux sur les objets de perruque.
L'idée, quelque part, c'est si le patron nous vole, si on fait de la perruque, on récupère une partie de ce qui nous a été volé. Par contre, je dirais que c'est une position qui me paraît à moi un peu anarcho-syndicaliste, ce qui est relativement traditionnel à Saint-Étienne et dans la Loire. Car dans la mesure où on veut s'attaquer aux droits de propriété, je crois qu'il faut qu'on y aille franchement. On n'y va pas en grappilleur, mais en le remettant en cause systématiquement à travers le comité d'entreprise, à travers les administrateurs élus, à travers l'activité syndicale. C'est beaucoup plus important, car effectivement, on a pris un pouvoir important dans la gestion des entreprises. Une extension du travail individuel de perruque en dehors du travail prescrit s'exprime dans les grèves avec occupation des locaux. Il s'agit alors de fabrication collective et sans contrainte hiérarchique. Différente donc d'un travail caché, elle constitue tout de même un travail détourné de la production prévue dans l'entreprise. Cette fois, il ne s'agit plus de poser l'objet sur sa cheminée ou dans son jardin. Ces productions sont destinées à la vente, le temps de la grève pour soutenir les grévistes. Il n'existe pas à notre connaissance de termes spécifiques pour qualifier ces fabrications. Faute de mieux, nous la désignerons comme perruque collective ou perruque de grève. Surtout lors des conflits longs, les ouvriers et les ouvrières en profitent pour exprimer un savoir-faire qui leur était interdit avant la grève. En 1973, les ouvrières de LIP ne se contentèrent pas de la vente de montres, mais fabriquèrent un jeu de plateau, le chômage et au poli, copié du Monopoly, et fait fabriquer un disque vinyle, un combat, un espoir, on fabrique, on vend. En 1979, pendant la grève, les chaudronniers de l'Alstom à Saint-Ouen vendaient des dessous de plats pliés et chauffés avec de l'acier destiné à d'autres usages. Dans de très nombreuses usines, ces productions diverses sont attestées comme aux usines de chaussures Bata. Il ne s'agit plus dans ces conditions de travailler pour vendre et soutenir la lutte comme chez LIP, mais de travailler pour soi à l'instar des ouvrières de chez Bata. La colère face au licenciement s'exprime en refusant le travail habituel de l'entreprise devenu inutile et à la place de rendre service dans l'atelier tout en donnant libre cours à la réalisation de ses capacités de technicien. Après l'annonce de la fermeture, il ne s'agit plus seulement de s'offrir des libertés vis-à-vis du travail salarié, mais de détourner collectivement l'outil de production contre les propriétaires du capital, comme le raconte un ouvrier âgé de 48 ans et qui travaille à l'usine depuis 26 ans au moment de l'annonce de la fermeture. Et qu'est-ce que vous faisiez quand vous restiez dans les ateliers? Ben, on discutait de la grève. Ouais, on discutait, on s'occupait. Moi, j'étais fraiseur. Tout le monde venait me voir. Fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Mais comment tu faisais? Il t'amenait le modèle et tu le faisais? Il m'amenait le modèle cassé. Moi, je reprenais toutes les cotes et je refaisais. C'est ça le métier de fraiseur. Et les chefs? Les chefs? Je m'en foutais des chefs. Je savais que j'étais virée. Le plasticien et photographe Jean-Marc Moulin a recensé 39 fabrications de grève dans les années 1980 et 1990 qui avaient été réalisées pour populariser les revendications grévistes. Plus rare en termes d'objets détournés et en dimension, les ouvriers CGT de l'usine Satam Industrie à La Courneuve, qui fabriquaient des pompes à essence, en montèrent une sur un plateau à roulettes avec le sigle syndical et un bandeau tricolore pour populariser leur lutte dans les manifestations.
Ou l'objet détourné, étendard de la lutte. Pas étonnant que les patrons n'aiment pas la perruque. Et comme la perruque est dans tous les pays, la lutte est dans tous les pays et la perruque est internationale.
Le besoin de se réapproprier son travail et surtout le besoin de fabriquer soi-même ce dont on a besoin nous semble une question universelle. L'industrie qui rassemblait au XIXe siècle quelques dizaines de millions d'ouvriers et d'ouvrières, cantonnés à l'Europe et à l'Amérique du Nord, représente aujourd'hui entre 1,5 et 2 milliards de prolétaires, obligés de survivre dans des conditions extrêmement précaires, en Asie surtout et bientôt en Afrique. Nous avons vu que la répression patronale n'empêche pas chacun de profiter des moyens que lui offre l'usine pour réaliser ce dont il a besoin ou ce dont il a décidé de créer. Les exemples qui suivent, comme ceux qui précèdent, pour la France, ne sont que des images, des illustrations, parfois uniques, d'un phénomène généralisé. En Hongrie, par exemple, une théorie de la perruque comme mode de travail idéal, dans salaire aux pièces ouvriers, dans un pays de l'Est, Miklós Araszti relatait son expérience de fraiseur en Hongrie à l'usine de fabrication de tracteurs Étoile Rouge. Il y décrivait son travail sur deux fraiseuses simultanément, ce qui ne l'empêchait pas de travailler en perruque. Son livre est un des premiers et des plus importants pour la description de la perruque. Étudiant en philosophie et en littérature à l'université de Budapest, il est exclu pour ses idées non conformistes, puis condamné en juin 68 avec un groupe de conjurés maoïstes. C'est alors qu'il travaille comme fraiseur pour l'usine des tracteurs Gantz Mavag et Red Star. La description fine du travail de fraisage est d'une grande qualité et d'une grande précision, ce qui n'affecte pas son style ni son espoir d'un monde différent. À la place du sens aliéné, imposé du dehors par le salaire, et de sa négation, le non-sens d'un réconfort interdit, viendrait l'extase du besoin authentique.
Robert Kosman donne quelques autres exemples de perruques dans des pays étrangers, mais il nous dit qu'en fait, ce travail à l'international devrait être poursuivi par d'autres chercheurs, d'autres personnes qui poursuivraient leurs enquêtes parmi les perruqueurs. Mais c'est vrai que partout où le travail existe, la perruque existe. Partout où le patron opprime l'ouvrier, l'ouvrier cherche à retrouver sa liberté en fabriquant dans l'atelier même, dans l'usine même, ces objets de perruque qui sont des témoins de sa créativité. Et nous nous quitterons sur la chanson de Marc Augeret, Le chant des ouvriers. À bientôt et même sûrement à la semaine prochaine.
La lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Sans relâche tendu au flot jaloux, au sol avare, ravissent leur trésor perdu, ce qui nourrit et ce qui part. Perles, diamants et métaux, fruits du coteau, grains de la plaine. Pauvres moutons, quel bon manteau, ils se tissent avec notre laine. Tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Nos babels montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Vêtus logés dans des trous, sous les combles et dans les décombres, nous vivons avec les hiboux et les larrons amis des ombres. Cependant notre sang vermeil coule impétueux dans nos veines. Nous nous plairions au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes. Chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-la dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre.